À la lecture de chacun de vos livres, Yasmina Khadra, renaît chez le lecteur le même étonnement. Mais comment fait-il pour entrer à ce point dans la peau d'un personnage? Alors, grâce à vous, nous entrons en contact avec des enfants à Kaboul, des adolescents à Bagdad. Nous suivons jusqu'au bout des raisonnements logiques radicalement contradictoires qui nous semblent tous pourtant aller de soi. Nous pénétrons dans des mondes qui troublent nos visions politiques ou encore nous entrons carrément dans la paranoïa d'un dictateur, étonné d'être à la fois ému et révulsé, comme dans votre dernier livre, La dernière nuit du Reich, où on pénètre dans la tête de Kadhafi. Alors, comment est-ce que vous faites pour entrer comme ça dans ces personnages? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment est-ce que vous arrivez finalement à si bien pratiquer l'empathie?
Peut-être à cause de mon enfance, dans cette école militaire conçue pour les orphelins, alors que je n'en étais pas. Et je me suis toujours intéressé, j'ai toujours partagé les peines et les joies des autres. Depuis que j'étais enfant, déjà à l'âge de 9 ans, j'étais responsable de ma fratrie, puisque ma mère a été répudiée et je me suis retrouvé en tant qu'aîné, le chef de famille, à l'âge de 9 ans. J'ai pris mes responsabilités.
9 ans, c'est un âge tournant pour vous.
Oui, oui.
Vous entrez dans cette école très, très dure qui vous arrache à l'enfance.
Oui.
Et tout d'un coup, vous prenez des responsabilités oui. d'adulte, au fond.
Oui, j'avais ma fratrie à essayer de protéger, ma mère aussi. Ma mère, c'est mon enfant. Aujourd'hui encore, elle demeure mon enfant. C'est pour ça que elle fait trop de chichi avec moi. Je la gâte trop. On me dit, oui, vous la gâtez trop. Mohamed, tu gâtes trop ta maman. Et moi, je suis à son service avec un plaisir immense. Parce que la mère, elle est quelque chose de magnifique. C'est une déité. La mère, c'est une déité. Et si nous avons du chagrin pour ce monde, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais su aimer profondément la mère. Et moi, je l'adore, cette mère. C'est une analphabète. Mais elle reste quand même cette conteuse qui m'a initié à cette empathie, justement. C'est, ma mère trouvait une âme même à une voiture. Elle ne parlait pas de choses comme ça. Elle trouvait une âme à n'importe quelle chose, à une pierre, à un arbre. Voilà, et peut-être que je tiens ça d'elle. Et puis, je n'aime pas beaucoup voir les gens souffrir. Ça, peut-être que très jeune, j'avais détesté cette réalité. Je ne peux pas passer à côté d'une détresse sans l'emporter avec moi, c'est pas possible. Et quand il y a de la joie, je me sens heureux. Même si je ne suis pas concerné du tout, mais je suis toujours heureux de voir les gens heureux et je suis malheureux de les voir souffrir. Peut-être, je ne sais pas d'où ça me vient. C'est comme ça, c'est ma nature. Je ne peux pas l'expliquer.
Vous absorbez comme ça les...
Je suis un buvard, oui. Je suis un vrai buvard. Et puis moi-même, quand je rencontre mes lecteurs et mes lectrices, le contact se fait le plus naturellement du monde. Je les aime tellement. Alors surtout les femmes, j'aime les taquiner à chaque fois que je trouve une femme. Alors vous êtes mariée, moi je suis jeune. Voilà, c'est merveilleux. J'adore les gens. Voilà, c'est peut-être ça qui me fait qui me donne cette force de rester debout. Moi, je pense qu'un écrivain dans ma situation, c'est-à-dire qu'un écrivain ayant connu les mêmes déboires que moi, la même enfance. Dans l'armée, j'étais considéré comme un paria. Et dans le milieu littéraire, c'est la même chose. Je suis aussi un paria parce que j'étais ancien militaire. Et je crois que si je n'avais pas cet amour au fond de moi-même, je n'aurais pas résisté. Les gens comme moi, ils finissent soit à l'asile, soit ivrogne, soit se suicident. Moi, je suis toujours debout, je suis dans ma générosité. Et chaque année, j'essaie de proposer à mes lecteurs un voyage à travers les mentalités, les cultures, les paysages, les peuples. Et c'est, voilà. Et mon lectorat est là pour me dire, vas-y, on ne te quittera jamais.
On suit,
on te soutient, voilà.
Mais alors, il y a quand même plus que ça, parce que dans l'attentat, par exemple, vous mettez face à face deux logiques.
Oui.
Et c'est magnifique parce que, bon, il y a un chirurgien arabe-israélien d'un côté, et de l'autre côté, le chef d'un mouvement palestinien. Et ce qui est terrifiant, au fond, c'est que les deux déploient des pensées antagonistes, que vous menez d'ailleurs jusqu'au bout. C'est un exercice de virtuosité intellectuelle formidable. Ils s'écoutent, Et finalement, il est très difficile, voire impossible, de donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre, ouais. Parce que les deux ont raison. Ce sont des techniques d'écriture qui font déraper toutes les certitudes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tout se passe comme si se parler et se comprendre, parce qu'ils se parlent et se comprennent,
ils se
ne
comprennent,
servait pas à grand-chose finalement.
Non, ils se comprennent parfaitement, mais chacun est dans sa logique. Moi, dans ce livre, je parle de l'intégrité et de l'intégration. Est-ce que l'intégrité pourrait servir l'intégration? La réponse est non. Parce que ce sont les préjugés qui prédominent.
Oui.
Et pour moi, les préjugés, c'est comme des agents dormants. Ils sont là, et puis un jour, il y a un drame, et ils se réveillent, et on redevient, on sombre dans l'animalité, dans la néantisation de l'autre, dans le rejet, dans la xénophobie, dans le racisme, carrément. Et je crois que le racisme, ce n'est que l'expression de tout ce qui est grégaire, finalement, de tout ce qui nous a empêchés d'être dans la maturité de l'espèce humaine, dans la maturité de la race humaine. Et ce livre, moi, je l'ai écrit non pas pour susciter la polémique. Je ne suis pas un écrivain de polémique. Tous mes livres sont là, ils sont raisonnables, ils sont sereins. Ils ne cherchent pas justement la difficulté, mais la facilité de comprendre le monde qui nous entoure. Mais ce roman a été très mal perçu par les uns et par les autres, simplement peut-être parce qu'ils ne l'ont pas lu, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas compris. Oh, d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui on peut ne pas comprendre un livre? Je trouve ça incroyable. Je pense qu'il y a tellement d'aigreur dans les esprits, tellement de fausseté dans les convictions. Les gens sont convaincus, mais ils savent parfaitement qu'ils sont faussement convaincus parce qu'ils épousent une idéologie, ils épousent un courant.
Vous pensez qu'ils le savent, qu'ils sont en train de mentir et de se mentir à eux-mêmes?
Oui, ils le savent parfaitement. Tout le monde se sait. Tout le monde sait et se sait et se connaît. Donc... Mais il y a ce qu'on appelle le mouvement d'ensemble. On est emporté par un enthousiasme qui ne nous appartient pas, mais qui nous dit que vous appartenez à quelque chose de plus important que vous-même. Et c'est là le danger de l'humanité. Il n'y a pas plus important que chaque individu. J'ai dit la préciosité des préciosités, c'est le droit à la vie. Aucune cause au monde ne mériterait qu'on lui sacrifie cette vie-là. Quand nous sommes appelés à vivre et à essayer d'être utiles aux autres et à chercher partout notre part du bonheur. Voilà, c'est notre motivation. Mais ce livre-là m'a causé beaucoup, beaucoup de problèmes. Depuis 2005...
C'est une trilogie.
Oui, mais chaque livre, par exemple, « Les Hirondelles de Kaboul » parle de la condition des femmes sous le règne des talibans. Et puis « Les Sirènes de Bagdad », ça parle un peu de la guerre en Irak, la guerre américaine. Voilà, contre Saddam Hussein. Mais l'attentat, c'est un livre qui a... Je crois que c'est mon plus grand succès sur le plan international. C'est le livre qui a été le plus traduit, je crois, une quarantaine de
langues.
Il y
a eu un film, non?
Oui, mais j'ai pas beaucoup apprécié le film. Je l'ai défendu parce que le réalisateur a été menacé, il a été exclu, il a été diabolisé. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour la première fois, l'attentat a réussi à unifier la parole des Arabes. Jamais à travers l'histoire, les Arabes n'ont été d'accord. Mais avec l'attentat, ils ont tous été d'accord pour le boycotter. Et aucun pays n'a accepté il a été interdit à tous les pays arabes de le projeter en salle. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que même dans les pays occidentaux en Europe, par exemple, l'attentat, il n'a pas bénéficié des salles qu'il attendait. Il a eu 40 salles dans toute la France. Et en Allemagne, il a été interdit de projection. Il faut le dire, il a été interdit de projection dans les salles. Il s'est vendu en DVD. Et ce livre, je crois qu'il est dérangeant parce qu'il met chacun à sa responsabilité. Et comme on n'a pas forcément le courage de ses convictions, on n'essaie pas de voir sa responsabilité en face. Et c'est pour ça que partout où je vais maintenant, j'essaie de dire aux gens, recouvrez votre libre arbitre. Ne laissez plus personne vous dicter ce que vous avez à faire, ce que vous devez aimer ou pas. Ne lisez plus jamais de critiques. Parce que les gens qui parlent d'un livre, ils peuvent ne pas l'aimer alors que, le plus sincèrement du monde, ils peuvent ne pas aimer un livre. Et vous pouvez l'adorer ce livre. Alors écoutez votre cœur, écoutez votre sensibilité. Et puis souvent, on raconte n'importe quoi. Des fois, il y a des gens qui parlent d'un livre qu'ils n'ont jamais lu. Mais parce que la tête de l'écrivain ne leur revient pas, ils essayent de le détruire. Il y a, par exemple, je suis vraiment désolé de le dire, mais par exemple, on peut prendre un livre... un chef-d'œuvre ou un excellent livre, et puis le détruire grâce à trois ou quatre phrases. époque dont on n'a pas su décodifier, déchiffrer le code. Moi, je me rappelle dans une émission que je ne citerai pas, mais qui est très écoutée en France, ils ont voulu détruire l'équation africaine avec quatre phrases, alors qu'il y a des passages d'anthologie dans ce livre, d'une beauté qui a été chantée même par des grands journalistes en Europe. Ils disent, voilà, telle phrase, « Oui, une sueur froide me verglaça le dos. » Et il rit. Il rit, ce bonhomme, bien sûr, par la galerie. Peut-on détruire un livre qui contient 80 000 phrases avec quatre phrases qu'on n'a pas compris? Eh bien, je dis à monsieur, oui, monsieur, moi, j'ai eu une sueur froide qui m'a verglacé le dos. Moi, je ne souhaiterais jamais que vous connaissiez une telle situation.
Alors, vous dites d'ailleurs, Yasmina Kadra, je mets en scène la bêtise humaine, l'homme, cette créature magnifique qui choisit la fange.
Oui, souvent, quand on voit par exemple des gens qui sont censés éclairer, passer leur temps à enténébrer les esprits, c'est grave. Oui. Quand on voit les gens qui ont été propulsés sous les feux de la rampe grâce justement à leur talent, se liguer contre le talent de quelqu'un d'autre, c'est grave. Il faut rester dans la générosité. La noblesse, la vraie noblesse, c'est de reconnaître le talent des autres. C'est ça la grande noblesse. Ce n'est pas de se liguer contre ce talent, essayer de le néantiser ou de le défigurer. D'autant plus que ce qui est encore plus grave, ça, on juge des gens sans les connaître. Et moi, je suis émerveillé par un écrivain ou par un film. Vous imaginez le monde sans musique, sans cinéma, sans théâtre, sans littérature, que c'est quoi ce monde?
Parmi les écrivains que vous aimez, que vous admirez, que vous lisez et relisez, il y a Taha Hussein.
Ah mon Dieu.
Ah oui, votre Dieu, tiens, en effet.
Pour moi, c'est le plus grand écrivain arabe. Et il n'a pas eu la chance de bénéficier d'un support assez consistant. Il est très connu dans le monde arabe. Hein. C'est la référence. Personne ne peut l'égaler ou essayer de...
Enfin, moi, j'ai lu, grâce à vous d'ailleurs, l'incontournable Livre des Jours, qui est une pure merveille.
Il y a aussi un livre qui n'est plus
disponible.
Disponible, qui s'intitule L'Arbre de misère. C'est un petit livre d'une centaine de pages, je crois, mais c'est le summum de la perfection littéraire.
Alors, vous dites il est adoré dans le monde arabe, ça sans doute, mais il écrivait dans quelle langue?
Il écrivait en arabe.
Mais pourtant, il a fait ses études à la Sorbonne.
Oui, bien sûr.
Il a épousé une Française, oui, parlait un très beau français.
Il a même vécu longtemps en France. Mais il avait cette... Vous savez, c'est quoi la littérature? Ce n'est pas la langue, c'est les moyens qu'offre cette langue pour que le verbe soit sauf. Alors moi, je suis arabisant de formation, j'ai fait toutes mes études en arabe. J'essaie d'écrire en arabe, mais je n'ai pas les accessoires nécessaires pour que je sois pleinement satisfait de ce que je veux dire. Alors que la langue française, elle me permet ça. Donc je l'ai choisi, je crois qu'il faut... Moi j'aime la langue arabe, mais le rapport que j'ai avec la langue française dépasse un petit peu cet amour. Il est supérieur à l'amour, c'est une gratitude, c'est une ambition, c'est une folie et c'est une féerie. Voilà, la langue française pour moi, quand j'écris en français, je suis dans une sorte d'euphorie permanente.
Voilà. Taha Hussein, il faut le dire aux auditeurs, il n'écrivait pas parce qu'il était aveugle, il dictait ses livres.
Oui, il n'est pas né aveugle, il a eu le trachome, et puis il a perdu la vue, mais il faut vraiment le découvrir, cet auteur, il est magique, il est extraordinaire.
Et quel homme magnifique, enfin il est né aveugle, pauvre, il avait tout pour que les choses soient épouvantables, et en réalité... Il a tout transformé en choses magnifiques.
Qu'est-ce que ça prouve?
C'est merveilleux. Il est devenu d'ailleurs ministre en Égypte, un grand écrivain.
Un immense écrivain. Il y a des choses qui nous parlent, mais qu'on n'écoute pas.
C'est quelqu'un qui a été capable de se saisir de son destin et de le transformer.
Ce sont justement ces choses-là qui nous parlent et qu'on n'écoute pas. C'est-à-dire, nous sommes tous les artisans de nos rêves. Et les fossoyeurs de nos espérances. Et ça nous appartient à nous de décider de quel genre de vie nous voulons mener. Et si nous avons des rêves, il faut y croire jusqu'au bout. Parce que croire, c'est ne jamais, jamais, jamais renoncer. Moi aussi, je suis parti de rien. écouter un enfant un soldat de 9 ans qui est enfermé dans une école, qui est formaté, et qui est houspillé. On a vécu très très dur. Qui a évolué dans un monde qui se situe aux antipodes de la vocation d'écrire. Alors que tout autour de lui prouvait qu'il ne pourra jamais, jamais être un écrivain. Lui, au fond de lui-même, il était certain de finir par devenir écrivain. Et je n'ai jamais pensé un jour dépasser les frontières de mon pays. Je pensais que mon rêve, c'était de voir un de mes livres sur les étals des librairies. C'est tout. Aujourd'hui, je suis dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que je crois dans cette chose saine, belle, qui s'appelle la générosité. Pour moi, le talent, l'art, le génie, la littérature, ce ne sont que des générosités qui nous aident à surmonter la banalité de notre quotidien.
Vous lisez de la philosophie également, Yasmina Kadra, parce que vous citez souvent Nietzsche, d'ailleurs.
Est-ce que c'est un philosophe, Nietzsche ?
Ah oui, c'est une bonne question.
Non, je
c'est
pense.
C'est pas sûr, en effet.
Moi, je l'ai jamais lu comme un philosophe.
Mais peut-être que c'est un penseur, voyons.
Voilà. Mm-hmm. C'est un penseur et qui a une certaine façon de vulgariser toute la complexité du monde. Moi, j'ai commencé à lire Nietzsche à un âge très, très... J'étais très jeune, j'ai commencé à lire Nietzsche, j'avais 15 ans, 16 ans, et déjà, mais j'ai continué de le lire. C'était quand je fermais un livre, je le reprenais 5 ans plus tard. C'est comme avec Gogol, je le lis constamment, comme Camus, comme John Steinbeck. Je reviens souvent sur John Steinbeck. Et cet homme, il avait quelque chose à nous dire sur nous-mêmes, sur notre façon d'être, de croire ou de ne pas croire. Et je trouve que c'est pas... Moi, je vois pas comme un philosophe. Un philosophe nous apprend à réfléchir ou à avoir une certaine discipline dans notre façon d'appréhender les choses. Mais un penseur, c'est surtout quelqu'un qui éveille en nous ce qui existe déjà.
Vous vouliez partager avec vos auditeurs votre amour pour la pièce de Sartre, Le diable et le bon Dieu. Alors, en fait, oui, là, c'est Sartre écrivain qui vous intéresse. Mais... Pourquoi cette pièce particulièrement ?
Sartre, c'est peut-être l'énigme du siècle dernier. C'est le bicéphale qui est constamment en situation. Et même quand il se trompait, il ne branchait pas. Il est planté dans son raisonnement comme un chêne. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas obligé de partager les idées des écrivains, mais je suis obligé de reconnaître leur talent. Il a, Sartre, c'est le talent incarné.
Alors là, c'est François Perrier qui a créé d'ailleurs le rôle de Goethe dans Le diable et le bon Dieu, qui en parle, c'était en 1968. Mais vous connaissez cette pièce
J'ai vu la pièce en 2001 ou en 2002. Je venais de débarquer en France. J'étais en promotion. Il y avait une journaliste allemande qui était venue de Cologne pour une interview. Et elle aimait beaucoup ce que je faisais. Et c'est elle qui m'a invité à voir cette pièce. Pour moi, ça a été un choc. Parce que pendant très longtemps, surtout pendant ces années, cette décennie noire où le théâtre et le cinéma étaient complètement ignorés, complètement néantisés dans notre vie, eh ben, retrouver le théâtre, ça a été des retrouvailles magiques.
Il y a quand même des pièces de vous qui ont été portées sur la scène, d'ailleurs, Yasmina Kadra. Mmh. Lesquelles est-ce que vous jouez un grand rôle dans cette réécriture pour le théâtre ?
Non, on m'a jamais sollicité pour ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Ils ont leur propre lecture, quand même. Ils veulent adapter ce qu'ils ont cru comprendre. Et c'est bien de voir son travail interprété par les autres. Même au cinéma, on ne me sollicite pas. Pourtant, j'ai écrit des scénarios, par exemple, La route d'Istanbul qui est passée récemment sur Arte. J'ai écrit, co-écrit le scénario de La voix de l'ennemi avec Forest Whitaker et Harvey Keitel. J'ai écrit aussi un autre scénario, maintenant complètement de moi, pour Forest Whitaker. Un scénario qui se passe justement à Cuba. Et on était allé à Cuba en juin 2014 pour les repérages. Et c'est là où l'idée d'écrire mon prochain roman qui va sortir en août, Dieu n'habite pas la Havane, est née. Et j'ai écrit ce livre tout de suite après avoir rencontré cette ville. Mais je préfère ne pas trop m'immiscer dans les affaires, dans le travail des autres artistes. Je n'ai pas le droit.
On devient quand même écrivain en étant un grand lecteur. Et vous êtes un grand lecteur, Yasmina Kadra. Alors, je ne sais pas où vous puisez d'ailleurs une si belle énergie. Je sais que vous aimez un certain nombre d'écrivains. Et vous auriez aimé nous faire entendre quelque chose sur ou de ou avec Steinbeck et Kessel. Et on ne pouvait pas mettre toutes les archives que vous souhaitiez, même si nos nuits quand même nous permettent de prendre du temps, ce qui est un luxe absolu.
Ouais.
Mais quand même, je voulais quand même signaler un peu cet amour. Alors, écoutez.
Joseph Kessel, vous avez connu personnellement Steinbeck. Et c'est plutôt, si je peux dire, sur l'homme que sur l'écrivain que je voudrais avoir quelques souvenirs de vous.
Eh bien, en rencontrant Steinbeck, j'ai eu exactement le même choc que j'ai éprouvé en lisant, peut-être le premier en France, son livre « Les souris et les hommes ». Je savais que Gallimard allait le publier, je demandais par curiosité qu'on me le prêta, et vraiment, c'est un des grands moments de mon existence comme lecteur. Et j'ai aussitôt demandé de faire la préface à ce livre. Et quand j'ai rencontré Steinbeck, ça a été le même, vraiment, je ne peux pas trouver de meilleure expression, le même coup de poing dans la poitrine qu'à la lecture de ce livre. C'est un grand costaud avec...
Dites donc, comme vous, Kessel.
Il paraît qu'il y a une légère ressemblance quant au volume.
Oui.
Et il a une tête très tourmentée, fabriquée à coups de serpe, un rire magnifique, profond, en même temps enfantin et d'homme qui a beaucoup vécu. Et il aime bien boire. Et nous avons parlé, enfin vraiment, dès la première minute, comme des gens qui se connaissaient depuis très longtemps. Comme exactement, il donne l'impression comme écrivain.
Est-ce que c'est le hasard qui vous a fait traduire, enfin un hasard dirigé bien sûr, qui vous a fait traduire, plus, du moins préfacer spécialement des souris et des hommes, ou est-ce que je peux conclure, et votre témoignage est précieux parce que vous êtes à égalité, et nous avons affaire à deux grands écrivains, du moins c'est bien mon opinion, eh bien est-ce que c'est vraiment le livre de votre confrère Steinbeck que vous préférez, des souris et des hommes?
Il n'y a pas de doute.
Vous aimez même mieux ça que Les raisins de la colère.
Oui, je trouve Les raisins de la colère très aussi admirables, mais comme composition, comme perfection et en même temps comme sauvagerie dans l'amitié, je mets Les souris et les hommes au-dessus de tout.
On vous demandait quelle est la qualité que vous préférez chez Steinbeck en tant qu'écrivain, est-ce que vous choisiriez plutôt l'humour ou bien plutôt le côté sombre et social ou bien la violence tragique ou
alors,
quoi ?
Ce portrait de Steinbeck par Kessel, Yasmina Kadra.
Il est fantastique. Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer mes idoles. Et c'est peut-être ma plus grande tristesse. Moi, j'aurais été ravi. Vous savez, j'ai toujours adoré Garcia Marquez, par exemple. Et quand j'étais à Rio de Janeiro, à la Biennale de Rio de Janeiro, c'est là où il a entendu parler de moi, parce que O Globo, le grand journal brésilien, avait fait un supplément pour la Biennale, pour le Salon du Livre de Rio de Janeiro. Et en première, sur la une, c'était moi. Et on m'a raconté que, bien sûr, c'est un grand monsieur. Il a dit pour plaisanter, mais comment ça se fait? Qui est cet inconnu qui nous rafle la vedette? Alors qu'il y avait Paulo Coelho, il y avait Khaled Hosseini, qui avait vendu 10 fois plus de livres que moi dans le monde, qui était vraiment... Et c'est comme ça, peut-être, qu'il a commencé à s'intéresser à moi. Et j'étais en conférence avec un libraire afghan, qui a fait l'objet d'un roman qui s'appelle The Booksellers of Kabul, le libraire de Kaboul, qui a eu un retentissement planétaire et qui était venu rectifier ce que cette journaliste norvégienne ou danoise avait écrit à propos de son histoire. Et il s'était amené avec un roman à lui pour raconter la vraie histoire du libraire de Kaboul. Et on était là, en train de discuter. Enfin, c'était une rencontre publique et je vois Garcia Marquez arriver tout au fond de la salle. Il me regarde comme ça et puis il m'adresse un salut militaire comme ça. On a dû lui dire que c'était un ancien militaire. Il me fait un... Moi, je vous assure, j'allais arrêter de cette rencontre pour aller le saluer, mais je n'ai pas eu cet honneur ni ce privilège extraordinaire. Mais en même temps, quand j'entends Joseph Kessel parler de John Steinbeck de cette manière, de cette rencontre, de cette éclipse, voilà, il y a deux astres qui se sont rencontrés. Je trouve que c'est le commencement de la vie elle-même. C'est comme s'il y a eu un Big Bang. Moi, quand je vois des géants se rencontrer, il y a toujours quelque part au moins un Big Bang qui me rassure, qui me fait croire encore plus dans la générosité humaine et qui me fait croire dans la littérature. Et il se trouve que ce sont deux auteurs que j'adore. Joseph Kessel, qui m'a toujours envoyé par la poste à travers mille féeries, John Steinbeck. J'ai lu pratiquement tous les livres de John Steinbeck.
Et vous aussi, vous préférez Des souris et des hommes plutôt que Les raisons de la colère?
C'est très difficile pour moi, Les souris et les hommes, ça m'a marqué vraiment, je trouve, mais je peux pas dire. Mais Les raisons de la colère, mon Dieu, c'est une pérégrination terrible, c'est la condition humaine. Je crois que la différence, moi je comprends un peu Joseph Kessel, parce que dans Des souris et des hommes, on est dans l'humain qui est profondément ancré dans le livre. Et dans les raisons de la colère, on est dans la condition humaine qui est partagée par plusieurs personnes, même par un chien qui va se faire écraser. Ce n'est pas la même destination. Là, c'est l'histoire de l'amitié, l'innocence qui est protégée par une amitié suicidaire. Voilà, c'est une amitié totale. Et de l'autre côté, c'est un peu la déchéance, c'est un peu le voyage à travers les incertitudes. Voilà. Mais il y a aussi l'Arès d'Éden qui est fantastique. On a un combat douteux, les pâturages du ciel, la perle, voilà, le tendre jeudi.
Bon, donc vous, ouais, adorez vraiment.
Tortilla flat que j'ai adoré, qui m'a inspiré justement l'Olympe des infortunes. Non, non,
c'est des grands maîtres.
Oui, il n'y a pas de problème. Ils vous sauvent de la monstruosité humaine, ces gens-là. Bon, j'ai rencontré quand même de grands écrivains, comme Orhan Pamuk, on a été invités tous les deux. On a été les invités d'honneur du Salon de Prague. J'ai rencontré Dario Fo. Ça a été un enchantement. Par exemple, Pierre Kotze, prix Nobel aussi, qui, grâce à lui, j'ai connu ce succès aux États-Unis. Mais je n'ai pas eu cette joie de m'asseoir avec eux, de discuter avec eux, de parler de banalité avec eux, parce que parler de banalité avec ces gens-là, c'est mettre la banalité sur un piédestal.
Vous souhaitiez nous faire écouter quelque chose autour de Jack London. Donc, nous allons entendre une nouvelle des États-Unis qui s'appelle Les larmes de Hakim. C'est un problème avec London, parce que c'est un immense écrivain, naturellement, un génie, mais en même temps, c'est toujours poignant, épouvantable, d'une tristesse folle. Comment est-ce que vous prenez cette littérature? Comment est-ce que vous l'accueillez?
On réagit de deux façons à son infortune. Soit on devient mauvais, soit on devient bon. On ne peut pas être indifférent à ce qui nous frappe au plus profond de nous-mêmes. Soit on devient presque saint, soit on devient l'expression la plus immorale et la plus terrifiante de la violence. Et Jack London, c'est quelqu'un qui a été renié par son père. Et parce que on ne le voulait pas, son père ne le voulait pas. Quand il était, quand sa mère, Flora, c'est ça, elle s'appelait Flora.
Je ne me rappelle plus.
Elle était enceinte.
Folle,
ouais. Oui, et il l'avait obligée, c'est-à-dire il voulait absolument qu'elle avorte. Et elle a tenu le coup, et puis le papa est parti. Lui, il est né dans des conditions terribles, dans la misère la plus atroce. Il a grandi dans la misère, et puis il a voyagé à travers toutes les confitures, toutes les déconvenues, tous les déboires du monde. Il a aussi voyagé géographiquement. Il a été même pêcheur. Il est allé chasser les requins ou la baleine, je ne sais pas.
Il s'est acheté un bateau. Oui. Ça a mal marché, évidemment, parce que toutes ces histoires tournaient assez mal.
Oui, au Japon, au Suède, il était partout. Et il était fasciné, non pas fasciné, il voulait prouver à la misère qu'elle était incapable de détruire un homme de bonne volonté. Et d'ailleurs, à partir de rien, Jack London, il a fait sa fortune sur grâce à la littérature. C'est tellement rare. Faire fortune grâce à la littérature, c'est extraordinaire à l'époque. Puis il en a... J'ai écrit dans Dieu n'habite pas la Havane cette phrase qui peut-être qui m'a été inspirée par le destin de cet homme. C'est-à-dire on peut vous en faire voir de toutes les couleurs, mais c'est à vous d'en faire un arc-en-ciel. Jacques London, c'est exactement ce qu'il a fait.
Vous le disiez aussi, c'est un des auteurs qui vous accompagne, Yasmina
Oui,
Cabra.
oui, bien sûr. Moi, il y a des, vous savez, pour moi, tous les écrivains sont une générosité. Il y a des écrivains exceptionnels, bien sûr. Il y a des écrivains qui le sont moi, mais pour moi, ils sont tous une générosité. Tous m'ont appris quelque chose. Tous, sans exception, les bons et les mauvais. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mauvais écrivains. Il y a des écrivains qu'on a du mal
à comprendre. Il y a peu d'écrivains en réalité. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de mauvais écrivains parce qu'il y a ou des écrivains ou pas d'écrivains, des gens qui...
Non, mais ce n'est pas grave. Le livre, c'est magique. Moi. Il faut... même si ce sont des œuvres modestes, mais il y a toujours en elles cette volonté d'aller vers les autres, et c'est ça la générosité,
vous
et c'est ça l'humanité, c'est ça l'humanité.
Vous aimez les livres en tant que tel, quoi.
Ah oui, j'adore les livres, ils m'ont façonné, ils m'ont... Vous savez, moi j'étais dans le désert des déserts, le Ténéré. Vous savez ce que c'est que le Ténéré? Il n'y a même pas un point d'eau. C'est un territoire infini. Il n'y a même pas un point d'eau. Ça s'appelle le désert des déserts, le plus dangereux de tous les déserts. Et là, quand j'arrivais, de par ma profession, ma fonction de militaire, j'ai découvert des gens complètement isolés. C'était des soldats qui étaient sur les frontières. Et je voyais autour de moi la nudité. Et cette nudité qui menaçait même peut-être mon esprit. Elle voulait l'anéantir, le désintégrer. Il me suffisait d'ouvrir un livre, n'importe lequel, parce que je trouvais toujours des livres auprès de ces soldats. Des livres de romans policiers, ou des livres d'histoire, n'importe quel livre. Je l'ouvrais, et d'un seul coup, toutes les oasis du monde, hop, me cernaient. Il n'y avait plus de nudité. Il y avait uniquement les échos de cette bonté artistique, intellectuelle, littéraire, qui m'était tout de suite restituée. Voilà, c'est ça. Le livre, c'est une magie. Je l'ai dit, c'est le meilleur ami de l'homme, ce n'est pas le cheval, ce n'est pas le fusil, ce n'est pas le chien. C'est le livre. Il ne demande rien à un livre. Et on ne peut même pas on n'est même pas obligé de le nourrir. Et pourtant, lui,
c'est
à chaque
lui
fois.
Qui vous nourrit, voilà. Absolument.
Ce serait une ingratitude que de ne pas le mettre au-dessus de toutes les générosités de la terre.
Donc, on va écouter un hommage à Tahusen,
oui.
Puis un entretien avec François Perrier, qui va nous parler du diable et du bon Dieu de Sartre, et enfin une nouvelle des États-Unis de Jack London, Les larmes de Hakim. Et puis nous nous retrouvons après, n'est-ce pas, Yasmina Kadra, vous restez avec nous cette nuit?
Oui, il n'y a pas de problème. On va veiller.